en direct de Copenhague.
Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Je suis Caroline Ettori et mon invité aujourd'hui est l'ambassadeur de France au Danemark, Christophe Parizeau. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Le 31 décembre dernier, lors de son traditionnel discours du Nouvel An, la reine Margrethe II, 83 ans, a annoncé à la télévision sa prochaine abdication en faveur de son fils, le prince Frédéric, âgé de 55 ans. La passation de pouvoir se fera le 14 janvier. Et on peut dire que cette décision, après 52 ans de règne, a pour le moins surpris les Danois. Une première réaction peut-être, monsieur l'ambassadeur ?
Oui, et c'est une décision un petit peu surprise qui a surpris et choqué, je dirais, les Danois pour plusieurs raisons. Parce que la reine avait annoncé il n'y a pas très très longtemps qu'elle n'abdiquerait jamais. Donc il y a forcément quelque chose qui s'est passé entre temps. Mais quelque part, c'est aussi tellement à l'image de la reine Margrethe, une personnalité hors norme, très responsable. Et qui a toujours en fait fait les choses pour que la transition se passe en douceur avec son fils Frédéric, qui viendra ce dimanche, le roi Frédéric X.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons qui ont motivé cette décision ? Avez-vous perçu ou reçu par les canaux diplomatiques quelques indices pointant vers l'abdication de la reine ?
Alors, il y a très peu d'informations, en fait, au-delà de ce que la reine elle-même a annoncé. Elle l'a dit elle-même. D'abord, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que effectivement, 52 ans de règne, c'est le plus long règne au Danemark. Donc, voilà, c'était aussi, elle était, après le décès d'Elisabeth II, au Royaume-Uni, c'était la reine ayant régné le plus longtemps aussi en Europe, enfin et au monde. Je pense qu'elle a aussi dit qu'elle avait eu quelques soucis de santé cette année. Elle a été opérée gravement du dos. Elle avait récupéré, mais peut-être pas autant qu'elle l'espérait. Donc, je pense qu'il y a un aspect de santé. Il y avait aussi cette volonté chez elle de passer la main à une nouvelle génération. Son fils, comme vous l'avez dit, a 55 ans, né en 68, il était prêt, il l'avait dit pour la première fois lors du jubilé de la reine cette année. Donc on sentait qu'il y avait quelques petits éléments qui faisaient que la reine pouvait. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais j'imagine qu'en fait elle a jugé, elle l'a dit, que c'était le bon moment. Et d'ailleurs, c'est très drôle de voir que les Danois qui, au mois de novembre, étaient tous à dire « non, il ne faut pas qu'elle abdique », majoritairement, ensuite, à une très large majorité, plus de 80-90%, ont dit que c'était une excellente décision. Et c'est vrai que, à 83 ans, de passer la main de cette manière-là, même si c'était la première fois depuis 900 ans que ça arrivait, c'est à l'image de cette reine, en fait, une reine extrêmement responsable et très investie dans son rôle.
Alors justement, comment est perçue la famille royale au Danemark ? Je rappelle que le Danemark est une monarchie constitutionnelle. Est-ce que l'attachement à la reine est aussi fort qu'il pouvait l'être, par exemple, en Angleterre ?
Je ne ferai aucune comparaison avec l'Angleterre, principe de base. Non. Mais sur le fond, c'est très intéressant. Oui, c'est à la fois une reine et une monarchie qui constitutionnelle depuis 1849, qui sont aimées et appréciées des Danois. Je prendrai un chiffre, enfin deux chiffres. Quand la reine Margrethe est arrivée donc au pouvoir, a pris ses fonctions, c'est même plus que ses fonctions, a été couronnée en 1972, il y avait 50% seulement des Danois qui étaient favorables à la monarchie, ce qui veut dire que la moitié des Danois étaient soit indifférents, soit opposés en fait, républicains. Et désormais, on est à 78% d'adhésion en fait pour la monarchie et la famille royale, et c'est principalement dû à la personnalité et à l'action en fait de la reine Margrethe.
Et de la même manière, son fils, donc Frédéric X, futur Frédéric X, est populaire dans le pays ?
Ouais. très 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 populaire. C'est un prince populaire. Il y a un taux d'adhésion, c'est presque comme des élections dans des pays non démocratiques, à 84%. Les Danois considèrent qu'il fera un bon roi, et son épouse, la future reine Mary, sera effectivement est aussi à 86% considérée comme étant quelque chose. Donc en fait, c'est une famille qui est au-delà de la personnalité et au-delà de la reine Margaret. Est une famille très très populaire, très proche en fait finalement des Danois, très accessible.
Est-ce qu'on doit s'attendre à un règne plus engagé et dans quelle mesure est-ce seulement possible ?
Je ne sais pas si on peut parler de, ça dépend de ce qu'on appelle un règne engagé. La reine était déjà, même si elle n'avait qu'un rôle politique très faible constitutionnellement, surtout un rôle de représentation en fait et un rôle symbolique. Elle avait déjà fait parler et s'était déjà engagée dans un certain nombre de causes, une fibre, je dirais, assez libérale. Le prince Frédéric, ainsi que son épouse, sont assez engagés sur un certain nombre de sujets, notamment tout ce qui touche à l'enfance. Tout ce qui touche à la protection des enfants. On parlait de la lutte contre le harcèlement. Il n'y a pas très très longtemps, le Premier ministre, maintenant Gabriel Attal, était venu en tant que ministre de l'Éducation au Danemark et avait rencontré la princesse Mary, qui a une fondation sur la lutte contre le harcèlement. Donc, il y a ce genre de choses. Le prince, lui, est très investi dans les questions d'environnement, quelque chose comme ça. Il a aussi quelque chose sur la sécurité parce qu'il a une identité, je dirais, militaire. Il a passé quelque temps dans l'armée danoise et aussi très attaché, je dirais, aussi à la cause, je dirais, des enfants en général. Donc, on peut s'attendre effectivement à des formes d'engagement qui vont se poursuivre au-delà du rôle purement protocolaire, en fait, de la famille royale.
De par vos fonctions, est-ce que vous rencontrez régulièrement cette famille royale?
Alors régulièrement, je ne prends pas tous les dimanches mon petit déjeuner avec eux, mais on a cette relation très particulière de la France et de la famille royale danoise, historiquement et encore plus ces dernières années, parce que la reine Margaret s'était mariée avec Henri de la Borde, comte de Montpezat, donc diplomate français, comme quoi diplomate français mène à tout. Et effectivement, ce lien avec la France s'était retrouvé dans des relations assez régulières, où effectivement j'ai eu la chance, en presque un an et demi maintenant de poste à Copenhague, d'avoir pu rencontrer à plusieurs reprises presque tous les membres de la famille royale, à différentes occasions qui vont de la remise du prix littéraire des ambassadeurs francophones à Copenhague, ou du centenaire de la présence de l'ambassade de France au Palais Tot avec la princesse Marie, la réception du prince Frédéric dans le yacht club de France, par exemple. Enfin, on a un certain nombre où, à l'occasion du Tour de France, on s'est retrouvé effectivement à plusieurs occasions aussi avec le prince Joachim, la princesse Mary, donc, et bien évidemment Sa Majesté la reine Margaret II, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises, vraiment.
Alors, vous
c'est pas mal.
Oui, vous le disiez. Quelles sont les relations entre la France et le Danemark au-delà de la diplomatie que vous incarnez ?
Alors, j'appelle ça une relation d'amour inconnue, ou mal connue peut-être. Parce qu'en fait, on a une très très bonne relation entre la France et le Danemark dans tous les domaines, mais c'est une relation qu'on ne connaît pas ou que l'on n'imagine pas aussi bonne. Et j'avoue qu'en arrivant, alors que je connais plutôt bien les questions européennes et avoir travaillé avec les Danois pendant de nombreuses années, je n'avais pas conscience que notre relation était aussi bonne. Et elle est bonne à la fois, par exemple, dans le domaine politique, où on a effectivement des choses comme les Danois, par exemple, ont participé aux opérations que nous avons menées au Sahel, l'opération Barkhane, l'opération Takuba. On a fait aussi beaucoup de choses, et là c'est très important actuellement, la présence maritime coordonnée dans le golfe d'Aden, ou dans la mer Rouge, ou dans le golfe de Guinée. Donc on a fait les choses au niveau politique, et au niveau européen on est assez proche sur certaines questions. D'un point de vue économique, on ne le sait pas, mais on a une excellente relation économique. D'ailleurs, on a un excédent commercial avec le Danemark, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Mais surtout, on a des investissements croisés qui sont impressionnants. La France est le premier pays pour les investissements danois depuis 4 ans. Et par exemple, vous avez eu il y a pas très très longtemps l'annonce de Novo Nordisk d'un investissement de 2,1 milliards quand même d'euros du côté de Chartres. C'est assez impressionnant. Et de l'autre côté, on a plus de 400 entreprises danoises qui sont en France. Et par exemple, vous avez des marques comme Velux qui sont très très bien implantées. Et à l'inverse, on a aussi beaucoup d'entreprises françaises, très grandes entreprises françaises, qui travaillent et qui investissent au Danemark. Donc on a comme Vinci qui fait le plus grand tunnel immergé au monde, ou Alstom sur le transport, ou Total Energy dans le domaine voilà énergétique, et plein d'autres encore. Donc c'est absolument assez incroyable. Et puis au niveau culturel, voilà, culturel, coopération, pour être très très clair, les Danois sont francophiles à défaut d'être francophones. Voilà, le Danois aime et connaît la France, donc on a une très très belle relation. Mais personne ne le sait, donc un de mes objectifs, c'est de le faire savoir. J'en profite aujourd'hui.
Vous faites bien. Et comment évolue la communauté française au Danemark ? Est-elle importante ?
Oui, alors c'est une communauté qui, alors tout est relatif, mais qui est relativement importante par rapport à la taille du pays, puisqu'on estime, alors selon les chiffres danois, qu'il y a à peu près plus de 8500 Français qui sont enregistrés auprès des autorités danoises. Hein, ici, c'est obligatoire. Donc inscrit au consulat, en nette augmentation depuis 2 ans, on est à plus de 6200 personnes, 200 Français, ce qui est assez symptomatique et révélateur d'un moment danois. Le Danemark plaît, il y a un moment danois. Alors on a beaucoup de touristes aussi qui viennent réciproquement, mais on a une communauté française qui est en pleine augmentation, avec la particularité aussi que on a une communauté française dans le sud de la Suède, la Scanie, du côté de Malmö, etc., et qu'ils dépendent de facto, en fait, ils viennent souvent à Copenhague aussi pour toutes leurs démarches, donc on a une grosse communauté. Voilà, donc non, c'est très bien.
Monsieur l'ambassadeur, pour conclure, où serez-vous, que ferez-vous le 14 janvier prochain ?
Alors, c'est très facile, c'est vraiment très facile. L'ambassade de France, donc le Palais Thotte, qui date du XVIIe siècle, est idéalement placée sur la plus belle place de Copenhague, la nouvelle place royale. Donc le 14 janvier, au passage du carrosse à l'allée de la reine Margrethe et au retour du roi Frédéric X et de la reine Mary, je serai donc à l'ambassade, à la fenêtre ou devant l'ambassade, pour saluer effectivement la reine et ensuite le roi et la reine qui seront en carrosse. Et puis par ailleurs, on a la possibilité de mettre, nous avons installé une très très belle bannière de remerciement auprès de la reine, pour la reine. Et donc je serai là le 14 aux premières loges. C'est exactement ça. L'ambassade de France est aux premières loges au Danemark et j'en profite.
Parfait. Christophe Parisot, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.presse.